Bonjour à chacun, est-ce que vous m'entendez bien? C'est un plaisir de se retrouver encore ce matin pour commencer cette nouvelle série sur l'Exode. Alors, ensemble, on va parcourir ce livre de l'Exode. Ceux qui étaient là la dernière fois, on a vu en quelque sorte la bande d'annonce du livre. On avait parcouru dans un survol les trois grandes parties de l'Exode, et on avait vu comment dans chacune de ces trois parties, Dieu, le Dieu de gloire, se révèle à son peuple. Alors si vous n'étiez pas là la dernière fois, pas de problème, c'était juste la bande-annonce. Ce matin, on commence la série avec le premier épisode de la première saison. Première saison, le Dieu de gloire se révèle à son peuple en le délivrant de l'esclavage égyptien. Cette première saison va nous emmener des chapitres 1 à 18. Et comme souvent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, comme souvent dans les films ou dans les séries, on commence et directement on est dans l'action. Et c'est un peu ça avec ce matin, avec ce premier épisode de notre série sur l'Exode. L'histoire de l'Exode commence avec un premier épisode sombre. Et je vous invite à lire ensemble dans le premier chapitre d'Exode, à partir du verset 8. Je lirai jusqu'au verset 22, la fin du chapitre. Exode 1, verset 8. Je vais même lire à partir du verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. » Empêchons qu'il ne s'accroisse, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pitom et de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors, les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Chifra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi ? Et avez-vous laissé vivre les enfants ? Les sages-femmes répondirent à Pharaon. C'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout le peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Ce matin, j'aimerais qu'on voit ensemble deux points qui s'articulent autour des deux parties de notre texte. Parce que Dieu accomplit son plan dans la persécution, marchons dans la confiance. Ça, ce sera la première partie, versets 8 à 14. Et marchons dans l'obéissance, deuxième partie, les versets 15 à 22. Ce nouvel épisode s'ouvre avec un nouveau personnage, un nouveau roi, un nouveau pharaon. La première chose qu'on apprend sur ce pharaon, c'est qu'il a peur. Il a peur que le peuple se multiplie et qu'en devenant de plus en plus fort, ils puissent s'allier à leurs ennemis et prendre le pays. Alors, petite parenthèse, ici on a, il a peur que les Égyptiens s'allient et montent du pays. Alors on peut aussi le traduire, et je pense que c'est mieux ainsi, prendre ensuite possession du pays. La peur du pharaon, c'est vraiment que le peuple se multiplie, qu'il s'allie avec ses ennemis, et qu'ensuite, ils prennent le contrôle du pays. Et à cause de cette peur, Pharaon va mettre en place une campagne d'extermination. Son projet, c'est de faire disparaître le peuple des Hébreux pour faire disparaître la menace éventuelle. Et cette campagne, on le verra, elle se déroule en deux étapes. La première étape, c'est l'esclavage. La deuxième étape, c'est le génocide. Première étape, on le voit au verset 11, Pharaon donne des corvées, des travaux forcés aux Hébreux. Et cette première étape, elle commence par quelque chose d'assez subtil. Pendant que les hommes du peuple des Hébreux étaient en train de construire les villes, pendant qu'ils étaient aux travaux forcés, passaient moins longtemps avec leur famille, ils étaient loin de leur famille, et pendant ce temps, le nombre de naissances allait diminuer. Deuxième impact, en passant du temps loin de chez eux, l'agriculture aussi allait diminuer, la nourriture allait à manquer, et les animaux viendraient probablement à disparaître assez rapidement. Et enfin, on imagine que les travaux forcés n'épargnaient pas les malades, n'épargnaient pas ceux qui étaient faibles et qu'ils tombaient sous les coups des Égyptiens. Mais là, dans ce texte, on a une première ironie. Et on verra ensemble qu'il y a plusieurs ironies dans le récit du texte. Première ironie, c'est au verset 12, regardez. Plus on l'accablait, le peuple, plus il multipliait et s'accroissait. Le plan du pharaon a l'effet inverse. Il voulait faire disparaître le peuple par la persécution, mais par la persécution, le peuple multiplie et s'accroît. Plus le peuple était affligé, plus le peuple se multipliait. Et c'est aussi un motif qu'on va retrouver plusieurs fois dans le livre de l'Exode. C'est un des motifs qui va revenir, qui va faire écho à ce qu'on verra dans ce premier épisode. Plus le pharaon s'acharne, plus la gloire de Dieu éclate. Et c'est même quelque chose que Dieu va dire. Il va dire « J'endurcirai le cœur du pharaon pour qu'éclate ma gloire ». Et on voit que la méchanceté des hommes dans ce livre, dans la Bible, dans la vie, la méchanceté des hommes finit toujours par être la toile de fond sur laquelle Dieu peint sa gloire. Et dès le premier épisode, on voit cela, on le verra encore plus clairement, avec l'épisode à la fois le plus sombre et le plus glorieux de toute la Bible et de toute l'histoire de l'humanité. L'épisode que l'on s'est rappelé ensemble la semaine dernière, la croix, la mort et la résurrection de Dieu. L'épisode le plus sombre, l'épisode le plus tragique et l'épisode par lequel Dieu manifeste sa gloire et sa puissance de la manière la plus belle et la plus glorieuse qui soit. Et dès ce premier épisode, on a aussi un nouveau thème, un thème qui va suivre jusqu'au chapitre 14, quand le peuple va sortir du pays d'Égypte. C'est ce bras de fer entre Pharaon et Dieu. Et tous les chapitres à partir de celui-là vont nous raconter comment Pharaon tente de gagner ce bras de fer avec Dieu. C'est un peu comme un bras de fer ridicule quand il y a un gars super balèze avec un gars super pas balèze, mais qui veut quand même tenter sa chance. Nous, on sait qu'il va se faire mal. On sait que ça va mal finir. Et c'est un peu ce qu'on va voir ensemble dans le livre de l'Exode. Dans les versets suivants, on voit une progression. On parle de corvée, mais après avoir vu que le peuple se multiplie, on voit que la corvée devient un dur esclavage, un rude esclavage. C'est répété deux fois au verset 14 et au verset 13. Ce dur esclavage rend la vie du peuple amère. Les Israélites sont maintenant soumis au travail des champs et de fabrication des briques. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que le mot ici pour parler du travail, peut-être que c'est aussi rendu par charge à un moment donné, peut-être les traducteurs, les éditeurs des Bibles veulent éviter les répétitions, et du coup on évite de mettre le même mot, mais dans le texte hébreu c'est le même mot, c'est aboda. Si vous voulez sortir ça à un dîner. Et on a ce mot aboda qui revient trois fois. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le même mot qui sera utilisé dans la troisième partie du livre, quand Moïse parlera du service qui est rendu à l'Éternel dans le tabernacle. Et c'est ce qu'on verra ensemble aussi dans cette série. C'est que Dieu a délivré le peuple de la servitude pour qu'il soit à son service. Et c'est une grande leçon du livre de l'Exode, une grande leçon aussi pour notre vie chrétienne. Celui qui est délivré de la servitude par Dieu est maintenant au service de Dieu. Et quelque part, on voit que le Pharaon agit un peu comme un dieu, ou en tout cas comme un anti-dieu. Au lieu de servir l'Éternel, Pharaon maintient le peuple dans la servitude. Au lieu de vivre en paix dans le pays promis, le peuple va mourir en Égypte. Récemment, je suis allé voir un film au cinéma. Peut-être que vous l'avez vu. Ce film, c'est Hostile. Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu qui ne veulent pas le dire. Et dans ce film, on entend un dialogue entre les deux personnages principaux, Rosalie et Joseph. Et Rosalie demande à Joseph, « Est-ce que vous croyez en Dieu, Joseph ?»« Oui, je crois en Dieu. » Mais il a fermé les yeux depuis très longtemps sur ce qui se passe ici. Et c'est une phrase triste. Je crois que c'est la première fois qu'on évoque Dieu dans ce film. C'est une phrase triste, vide d'espoir. Mais c'est aussi une phrase qu'on peut comprendre. C'est une phrase qu'on a peut-être déjà entendue. C'est peut-être une phrase qu'on a aussi déjà prononcée. Et dans la souffrance et dans l'oppression, on peut se demander où est Dieu. Et dans ces premiers versets, dans cette première partie, le nom de Dieu n'est pas mentionné. Mais on voit son action. Face au plan du Pharaon, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. Pharaon avait projeté de faire périr le peuple par la persécution. Dieu accomplit sa promesse de multiplier le peuple par la persécution. Alors, entendons-nous bien, la persécution est toujours mauvaise. La persécution est toujours le résultat du péché. La persécution entraîne toujours la souffrance et la mort. Et à vue humaine, la persécution est un triomphe du mal. Mais la persécution, comme on le voit ce matin, accomplit le plan de Dieu parce que Dieu est souverain sur tout. Si on lit l'histoire des tout premiers chrétiens, si vous avez envie de le lire, que vous ne l'avez jamais lu, c'est dans le livre des Actes, un peu plus loin dans la Bible. Et quand on lit cette histoire des premiers chrétiens, au chapitre 7, on a le meurtre, l'assassinat du premier chrétien martyr, Étienne. Et juste après, au chapitre 8, au début du chapitre, je vous lis. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'Église qui était à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Or, Saul ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons, en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux donc qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu en annonçant la bonne nouvelle de la parole. Par la persécution de l'Église, l'Évangile se répand. C'est ce qu'on lit dans les Actes. C'est ce qu'on lit dans l'histoire de l'Église. Dieu utilise la persécution pour faire éclater sa gloire. Et encore aujourd'hui, Dieu fait éclater sa gloire en Corée du Nord. Dieu fait éclater sa gloire en Afghanistan. Dieu fait éclater sa gloire en Somalie. Est-ce que ça veut dire qu'on doit se réjouir de la persécution ? Non. Mais ça veut dire qu'on peut marcher dans la confiance parce qu'on sait que Dieu accomplit son plan dans la persécution. Et Spurgeon, un grand prédicateur anglais, on l'appelait le prince des prédicateurs, soulignait une chose intéressante. Il disait que l'esclavage, quelque part, a gardé le peuple hébreu. Que sans l'esclavage, le peuple aurait fini par se mélanger aux Égyptiens et qu'il aurait perdu son identité, qu'il aurait perdu ses valeurs et qu'il aurait fini par adopter l'idolâtrie du peuple égyptien. Et c'est aussi le cas pour le peuple de Dieu aujourd'hui. Nous, chrétiens d'Occident, nous demandons comment nos frères et sœurs de l'Église persécutée peuvent vivre leur foi sous la persécution. Mais eux se demandent comment on peut vivre notre foi dans le confort, dans la compromission. En fait, on fait une grave erreur en pensant que la persécution présente plus de dangers que la compromission. On fait une grave erreur en pensant qu'on est face à un danger moins grave et moins important avec la compromission qu'avec la persécution. Et Satan, on le voit, a toujours utilisé deux armes contre l'Église pour la détruire. La persécution et la séduction. La persécution attaque les chrétiens de manière frontale, de manière violente, souvent physique. La séduction attaque les chrétiens de manière sournoise, en prenant un chemin détourné pour les faire tomber et les éloigner de leur foi. Nombreux de nos frères et sœurs, et nous le lisons dans les comptes rendus de Porte Ouverte par exemple, ont une foi vibrante, une foi vivante au milieu de la persécution. Dieu se sert de la souffrance et de la persécution pour faire éclater sa gloire. Et la persécution et la souffrance nous obligent à marcher par la foi. Si on marchait par la vue, on serait vite accablé par les circonstances, on serait vite accablé par les événements. Mais en marchant par la foi, on veut s'accrocher aux promesses de Dieu et on veut interpréter nos circonstances à la lumière de la parole de Dieu et pas interpréter la parole de Dieu à la lumière de nos circonstances. La parole de Dieu, c'est la clé pour comprendre ce que l'on vit. Ne faisons pas l'erreur de vouloir comprendre la parole de Dieu à partir de ce que l'on vit. La souffrance fait grandir notre dépendance. Et au sein de l'affliction, on veut marcher un jour à la fois, un pas à la fois. Peut-être que vous traversez ce matin, ou cette semaine, ou ce mois-ci, ou cette année, une période de souffrance, et que vous vous demandez peut-être comme se le sont demandé les membres de ce peuple dans la persécution, dans la souffrance. Où est Dieu? Dieu est là. Dieu prend soin de vous. Il ne vous a pas abandonné. Avancez avec lui, avec confiance. Un pas à la fois. Un jour à la fois. Dieu se sert aussi de la souffrance pour révéler notre esclavage. La souffrance nous aide à lever les yeux vers le Seigneur. La souffrance nous aide à avoir une espérance plus forte dans le ciel. Sans souffrance, on aurait beaucoup moins de raisons d'espérer le ciel. Je cite encore Spurgeon. Le fouet de la persécution est utile parce qu'il nous enseigne qu'on se trouve dans la maison de la servitude, et nous aide à vouloir et à rechercher le pays de la liberté, le pays de la joie. La persécution nous fait tourner les yeux vers le pays du repos. En attendant, parce que Dieu accomplit son plan dans la persécution, marchons avec confiance. Deuxième partie. Parce que Dieu accomplit son plan dans la persécution, marchons dans l'obéissance. Et après avoir essayé de réduire, de faire disparaître le peuple par un rude esclavage, le pharaon passe à la phase 2 de son plan, le génocide. Et alors que la première partie était assez générale, très communautaire, on parlait du peuple, la deuxième partie est personnelle. On va voir l'arrivée dans cette nouvelle scène de deux nouveaux personnages, Shifra et Pua. Si vous attendez des filles, quelques idées de prénoms. Chiche. Je plaisante. Mais c'est biblique. Pharaon parle à Shifra et Pua, deux sages-femmes des Hébreux. C'est probablement les responsables des sages-femmes des Hébreux. Et il leur ordonne. Dans notre Bible, il leur dit. Mais quand le pharaon parle, il ordonne. Il leur ordonne de faire mourir tous les premiers-nés de sexe masculin. Et au passage, je plaisantais avec leur prénom, mais c'est intéressant de noter qu'on connaît le prénom de ces deux sages-femmes, Shifra et Pua, mais on ne connaît pas le prénom ni le nom de ce pharaon. On connaît le nom de ces deux femmes qui sont a priori insignifiantes, mais on ne connaît pas le nom du roi d'un des pays les plus puissants de l'époque. C'est comme si on connaissait le nom de deux éboueurs qui travaillaient à Brevilliers. Désolé. C'est parce que j'y suis jamais allé. Mais qu'on ignore... J'aurais dû inventer un truc. Mais qu'on ignorait le nom du président de la République française ou le nom du président des États-Unis. C'est incroyable. Et le texte souligne ce contraste avec force. Et on voit que Dieu se plaît à utiliser des gens sans importance pour renverser des gens qui se croient importants. On voit que Dieu se sert de personnes ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. On voit que Dieu se sert de notre faiblesse pour révéler sa puissance et faire éclater sa gloire. Et on verra dans la suite du livre de l'Exode que Dieu se servira d'un leader à la parole difficile, un leader un peu lâche sur les bords, un leader qui manque totalement de confiance en lui pour conduire son peuple hors d'Égypte et le délivrer. Et si on continue dans la Bible, on voit que Dieu se sert de son fils né dans une étable pour mener son peuple hors de la servitude du péché dans le vrai Exode. On voit que Dieu se plaît à confondre les choses fortes par les choses faibles. Verset 17. Verset 17 commence par un petit mot, mais. Un petit mais un mais lourd. Un mais qui peut coûter la vie. On peut imaginer que le pharaon n'a pas juste demandé aux sages-femmes de lui obéir. On peut imaginer qu'il a accompagné sa parole d'une récompense s'il leur obéissait, peut-être de l'argent, et accompagné aussi sa parole d'une menace en cas de désobéissance, sûrement la mort. Mais les sages-femmes ont décidé de désobéir au pharaon et de laisser vivre les enfants. Et le texte nous donne la raison de cet affront, la raison de ce courage, la crainte de Dieu. C'est parce que les sages-femmes ont craint Dieu qu'elles n'ont pas obéi au pharaon. C'est aussi parce qu'elles ont craint Dieu que Dieu leur a fait du bien et leur a donné une famille. Alors, il y a une question qui revient souvent quand on aborde ce texte. Quand les sages-femmes sont convoquées par le pharaon, sûrement après une période de temps où il dit bah, ce que j'ai mis en place, ça ne marche pas très bien. Il leur demande, mais pourquoi vous n'avez pas fait ce que j'ai demandé? Et les sages-femmes répondent à ce qui s'apparente être un mensonge. Et souvent, on appelle ça une demi-vérité ou un fait alternatif. Ça, c'est quand on est créatif, qu'on ne veut pas aller en prison. En fait, quand on parle de demi-vérité, c'est un moyen élégant de parler de mensonge par omission. Et ce passage-là, il a fait couler beaucoup d'encre. On s'est demandé, est-ce que Dieu a béni les sages-femmes parce qu'elles ont menti? Ou en tout cas, Dieu a béni les sages-femmes alors qu'elles ont menti? Est-ce que ça veut dire que mentir, c'est pas grave? Est-ce que ça veut dire qu'on peut mentir ou que c'est pas un péché? Alors, vous trouverez des bonnes ressources sur le sujet, mais laissez-moi vous donner quelques pistes. D'abord, dans le texte, et ce serait faire parler un silence que d'affirmer cela, mais Dieu n'approuve pas le mensonge des sages-femmes. Dieu n'approuve pas le mensonge des sages-femmes. La bénédiction, c'est pas la conséquence de leur mensonge, mais elle vient parce que les sages-femmes ont craint Dieu, et ça c'est très clair dans le texte. On a aussi l'histoire d'autres personnages dans la Bible qui ont été devant des dilemmes et dans des situations similaires où leur vie était en jeu. On pense à Daniel. Et ces personnages-là n'ont pas agi par ruse, n'ont pas menti. Le plus bel exemple, c'est Jésus. Il faut aussi souligner que parce qu'on vit dans un monde de péché, on se retrouvera souvent ou parfois dans des situations où aucune solution n'est parfaite. Et prions que Dieu nous donne la sagesse pour lui obéir avec crainte. Et enfin, ce texte-là, c'est la preuve magnifique que Dieu bénit des pécheurs. Dieu bénit des pécheurs, pas parce qu'ils ont fait tout parfaitement, mais parce qu'il est plein de grâce. Dieu bénit des pécheurs parce qu'il est plein de grâce. Et on a encore ici une belle ironie. Le pharaon pensait agir avec sagesse au verset 10. Peut-être vous avez habileté, montrons-nous habile. D'autres versions, montrons-nous sage. Le pharaon pensait agir avec sagesse en déployant son plan de malheur. Mais la vraie sagesse se trouve dans la crainte de Dieu. Et on a ce verset fameux dans le livre des Proverbes. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. En fait, le pharaon n'était sage qu'à ses propres yeux. Et on voit dans cet épisode que toute sagesse qui n'est pas crainte de Dieu est pure folie. Seule la crainte de Dieu est sage. Les sages-femmes savaient qu'il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est un verset qu'on retrouve dans les Actes, quand les premiers chrétiens, dans leur témoignage, risquaient la persécution et la condamnation. Elles savaient aussi qu'il ne faut pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent rien contre l'âme, mais qu'il faut craindre celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans le feu éternel. C'est aussi un verset qui s'adresse aux disciples de Jésus en Matthieu 10. Et dans le contexte, les disciples sont envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus les encourage à obéir sans craindre les conséquences. Comment ? En ayant la crainte de Dieu devant leurs yeux. Les sages-femmes savaient qu'il est préférable de désobéir au Pharaon et d'obéir à Dieu plutôt que désobéir à Dieu et obéir au Pharaon. La crainte de Dieu, c'est l'obéissance. Craindre Dieu, c'est lui obéir. Et Shifra et Pua sont des exemples de foi. Et ça apparaît encore plus fort dans le fait qu'elle soit nommée. Une foi qui manifeste sa confiance dans l'obéissance. Une foi qui préfère risquer de souffrir plutôt que pécher, alors qu'on serait tenté de pécher pour échapper à la souffrance. Et la foi de ces deux femmes remarquables. Et au passage, on verra aussi dans la suite, dans le chapitre 2, qu'on a des exemples de femmes remarquables que Dieu se plaît à utiliser pour contrecarrer les plans mauvais de Pharaon. Et l'attitude de ces deux femmes nous remet en face de notre propre foi et nous oblige aussi à faire le bilan. Nous oblige à nous demander quand je peux perdre quelque chose, quand je peux perdre mon emploi, quand je peux perdre un privilège, quand je peux perdre une position, quand je peux perdre ma réputation. Et ces choses-là ne sont pas faciles à vivre. Mais ce texte nous remet en perspective. Quand je peux perdre cela, est-ce que je préfère honorer Dieu plutôt que céder? Est-ce que je fais confiance à Dieu en lui obéissant? Est-ce que je crois, comme ces femmes le croyaient, que Dieu est plus grand que le danger? Est-ce que je crois que Dieu est plus grand que le danger? Shifra et Pua nous rappellent que nous pouvons marcher dans l'obéissance parce que Dieu accomplit son plan dans la persécution. À la fin du texte, on assiste à un renversement qui est encore plein d'ironie. Le Pharaon, on l'a vu dans tout le texte de ce matin, dans tout ce premier épisode, a cherché à redoubler d'efforts et de méchanceté pour faire disparaître le peuple, de peur qu'il ne se multiplie. Mais on voit que Dieu est plus grand que les plans du Pharaon. On voit que Dieu est plus grand que les plans du diable. On voit que Dieu est plus grand que le mal. On lit au verset 20. Le peuple se multiplia et devint très fort. Et le dernier verset, c'est une des dernières cartes que joue le Pharaon quand il étend son ordre à tout le peuple de jeter les premiers-nés dans le fleuve pour qu'ils périssent. Mais on verra dans le texte de la prochaine fois, épisode 2, rendez-vous pour l'épisode 2, on verra qu'il y a une ironie encore plus grande, et j'anticipe un peu. C'est un peu la mini-bande-annonce juste après le générique. On verra qu'il y a une ironie encore plus grande. On verra que son plan est déjoué sans le savoir par sa propre fille et que la propre fille du Pharaon va sauver celui qui délivrera son peuple. Rendez-vous au prochain épisode. Ce matin, on a répondu à deux questions. Deux questions qui peuvent nous venir quand on est dans la souffrance ou dans la persécution. La première question, c'est pourquoi Dieu laisse faire le mal? Pourquoi Dieu laisse faire le mal? La deuxième question, c'est pourquoi je ferai le bien? Et on a vu deux choses ce matin. On a vu que les promesses de Dieu nous permettent de marcher dans la confiance. Et que la crainte de Dieu nous permet de marcher dans l'obéissance. Parce que Dieu accomplit son plan dans la persécution, nous pouvons marcher dans la confiance et l'obéissance. Je vais prier pour conclure. Père Céleste, merci pour ta parole qui nous montre ta puissance et ta gloire, qui nous montre que tu es un Dieu qui accomplit ses promesses, qui nous montre que tu es un Dieu qui est là, qui nous montre que tu es souverain sur absolument tout et que les plans des hommes ne peuvent rien contre ta main. Nous voulons louer ta gloire. Nous voulons louer ta grandeur et ta puissance. Et nous voulons te demander de nous aider à nous accrocher à tes promesses. Nous voulons te demander de nous aider à nous souvenir que tu es fidèle, à savoir avoir la conviction et l'assurance que tu accomplis ce que tu dis. L'assurance et la conviction que rien ne peut nous séparer de ton amour. L'assurance que tu es un Dieu de grâce, un Dieu bon, parfaitement juste. Et Seigneur, mets devant nous la crainte de ton nom. Fais-nous marcher dans tes voies. Fais-nous méditer comme on l'a chanté, jour et nuit, ta parole, pour que ta parole nous habite. Aide-nous à obéir à ta parole en pensant plus à la crainte de ton nom qu'aux conséquences qu'on pourrait encourir. Aide-nous à être plein de courage, Seigneur. Aide-nous à marcher simplement dans tes voies en te faisant confiance pour le reste. Aide-nous à compter sur toi jour après jour, pas après pas. Et merci parce que tu es là. Merci parce que tu nous accompagnes. Merci parce que tu nous devances. Merci parce que tu nous portes. Tu nous tiens la main. Tu es avec nous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen.